Pour la FNSEA, alors, il y a différentes tribunes dans lesquelles la FNSEA a pu s'exprimer en fait sur les questions d'identification. Alors, en entrant par effraction, notamment dans certaines arènes, notamment dans un groupe, alors peut-être que vous pouvez parler, Urbanisme de projet, qui était lancé par Benoît Apparu, qui avait réuni autour de lui en fait un certain nombre d'acteurs de la production urbaine, mais en invitant pas les associations environnementales et les exploitants agricoles, enfin la FNSEA. Et donc en fait, ils se sont incrustés en disant mais c'est pas normal, etc. Et donc ils ont essayé de freiner certaines mesures, notamment vis-à-vis de la densification, puisqu'il y avait des mesures notamment qui permettaient, sur quelques dispositions, par exemple en fond de parcelle, de limiter 5% des espaces. Et donc ça, pour la FNSEA et pour le France Nature Environnement notamment, c'était complètement inadmissible, puisqu'on permettait en fait sans. Notamment faire des modifications de PLU, de grignoter encore sur des espaces naturels et agricoles sous prétexte que c'était inférieur à 5% de la parcelle. Donc voilà, c'est notamment dans l'urbanisme de projet. Et puis ensuite, ils ont été invités officiellement autour de la table dans le cadre des lois dites Grenelle de l'environnement, où donc là, ils ont eu l'occasion de produire un certain nombre de documents de positionnement, justement, et spécifiquement aussi sur les petites modifications. Comment se forment les choix locaux autour de la densification? Alors, il y a différents modèles. Alors, effectivement, dans le modèle de Logan et Moloch, c'est plutôt en fait les acteurs publics qui sont utilisés pour des objectifs qui sont au départ déterminés par d'autres types d'acteurs, notamment, on va dire, grosso modo, les acteurs économiques, les propriétaires fonciers, etc. Alors, dans le cas de Markham, ça marche assez bien, entre guillemets, puisque en fait, Markham, au départ, c'est une municipalité suburbaine, essentiellement pavillonnaire, et avec un certain nombre d'espaces. En fait, un jour, il y a, on ne sait pas trop pourquoi au départ, l'arrivée d'IBM dans Markham. Qui va d'ailleurs marquer un tournant dans le développement de la ville, puisque donc IBM va avoir un peu des exigences vis-à-vis du logement de ses employés, vis-à-vis des extensions de ses surfaces logistiques, et ça va créer un peu une espèce d'habitude de discussion entre la compagnie IBM et les pouvoirs publics, puisque en fait pour le coup IBM payait beaucoup de taxes. Et donc, commençait à devenir assez importante, notamment dans les budgets municipaux. Et donc, par ce biais-là, elle avait un moyen de négocier, en fait, un certain nombre de choix politiques qui étaient faits. Et donc, en fait, l'arrivée d'IBM va déclencher l'arrivée, ensuite, d'un certain nombre de grandes entreprises, notamment spécialisées, en fait, dans le high-tech. Et à partir de là, ça va devenir, en fait, une véritable stratégie. Mais donc, je ne sais pas qui est la poule. Enfin, on va dire qu'il y a quand même IBM au départ qui a des exigences, mais qui va faire réaliser à la municipalité qui a peut-être un intérêt à avoir une stratégie encore plus importante d'attraction de ces entreprises, parce qu'en fait, ça a changé complètement l'image en fait, de Markham. Dans d'autres cas, encore une fois, c'est vrai que c'est marrant parce que, par exemple, dans le cas français, souvent, c'est. Effectivement, le modèle de la collectivité de croissance, il est un peu en décalage. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les acteurs locaux déjà qui jouent sur les politiques qui sont mises en place. Typiquement, par exemple, dans le cas de Noisy-le-Grand, c'est un processus un peu historique. Au départ, ça fait partie d'une ancienne ville nouvelle. Donc, déjà, il y a l'action de l'État qui est extrêmement importante dans la fabrication de ce nouveau pôle urbain. Parce que voilà, les acteurs du coup régionaux, les acteurs étatiques. A priori, Logan et Moloch n'en parlent pas trop. Ils essayent dans certains articles, alors c'est plus ou moins bien réussi, notamment j'ai lu un truc sur le cas de ville italienne, bon bref. Mais donc du coup, ils essayent d'adapter un peu leur théorie en disant que c'est une théorie qui se généralise. Bon, effectivement, dans le cas français, ça marche un peu moins bien. Quoique, donc, dans le cas de coalition de croissance, alors un peu alternative, par exemple, comme Amélie Liamo, on voit que, en fait, cette question de la valeur d'échange, elle est quand même, même s'il y a un compromis, assez importante dans le déclenchement d'une coalition de croissance modérée. Pourquoi ? Parce qu'au départ, en fait, avant de mettre en place cette belle politique de densification douce, ce qui a déclenché, en fait, la décision, c'est la demande de particuliers qui avait des grands domaines en fait, régulièrement à la municipalité, qui disait oh mais on peut pas rediviser, on peut pas vendre un peu de parcelle, nous ça nous aiderait voilà, pour financer les études des enfants, pour financer notre retraite, etc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de modifier un peu le PLU en ce sens? Et donc ensuite, en discutant avec le PLR, la CASPI, etc., on a vu qu'en fait les intérêts des propriétaires particuliers pouvaient rejoindre les intérêts à la fois de la CASPI, d'un développement quand même important, en tout cas de la construction de logements, et la protection d'espaces naturels et agricoles. Et donc, même si on peut dire qu'il y a une volonté politique d'avoir une politique densification douce, elle a été néanmoins provoquée, initiée par la demande des particuliers, en fait, propriétaires d'une maison individuelle. Alors sur le retournement au début du XXe siècle, alors je dirais que je suis passée un peu vite là-dessus. Donc j'avais travaillé un peu rapidement sur justement l'histoire des discours politiques sur la densité et la place finalement de cette mesure d'organisation urbaine, alors à la fois comme outil de mesure de l'organisation et comme action d'organisation. Et donc, effectivement, il y a vraiment une fluctuation dans l'utilisation de la densification, et notamment, par exemple, entre les années 50 et aujourd'hui, avec le paradigme modernisateur. Alors, nous, on utilise la densité vraiment comme un outil technique pour rationaliser l'aménagement, et donc, on va utiliser justement, à certains endroits, à la fois l'outil de densité calculateur, mais aussi, on va densifier de manière très ponctuelle dans certains endroits, alors pour justement rivaliser avec certaines grandes villes telles que New York, où on va essayer, par exemple, la Tour Montparnasse, c'est un peu le symbole de cette période-là. Inversement, juste après, donc on va aussi construire les grands ensembles dans un contexte d'urgence, en tout cas de besoin important de logement. Et donc à ce moment-là, on construit les grands ensembles, et tout de suite après, années 60-70, on va complètement rejeter les grands ensembles, et ce rejet des grands ensembles va être très fortement lié au rejet de la densité et de la densification urbaine. Et donc pendant très très longtemps, on va au contraire favoriser des politiques de déconcentration, et donc déconcentration au niveau national, et de dédensification, notamment des centres-villes. Il y a une mesure qui a été beaucoup utilisée, beaucoup discutée dans ces arènes un peu techniques, c'est par exemple le PLD. Le PLD, c'est un peu la mesure phare de cette période, le plafond légal de densité. Aujourd'hui, on parle de minimum de densité à mettre en œuvre, avant on parlait d'un maximum. Donc on voit bien ce renversement justement de perception, en tout cas l'utilisation des densités urbaines dans l'organisation de la ville. Et donc pour ce renversement, donc, quand le situer de manière précise, c'est un peu difficile. En revanche, on peut observer un glissement des intérêts, en tout cas, qui sont portés aux actions de densification urbaine. On parlait dans les années 70 donc, du mitage des espaces urbains. Là encore, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas forcément associé à la nécessité de densifier les espaces urbains, bien au contraire, il n'y avait pas forcément d'action dans ce sens-là. Par contre, cette montée progressive des enjeux environnementaux, la sensibilité donc, vis-à-vis de la protection des espaces naturels, mais aussi progressivement après avec le rapport Brundtland, la nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, et la partie scientifique nouveau, donc justement sur ce qui lie les formes urbaines et les émissions de gaz à effet de serre. Donc progressivement, donc, je ne sais pas si on peut vraiment dater, mais tout ça monte un peu, prend un peu, la mayonnaise commence un peu à prendre. En tout cas, quand on regarde les appels d'offres de recherche, c'est assez intéressant, à partir de la fin des années 80, début des années 90, on voit dans les titres en fait, des appels d'offres de recherche justement des références de plus en plus présente à la densité. Au départ, on parle d'organisation de la ville, rapport à la nature, etc. Et puis progressivement, on parle de densité acceptable, etc. Pour aller carrément, d'ailleurs, je travaille au PUCA et on est, par exemple, sur un programme de recherche sur la densification. Et donc, ça, on peut le remettre en cause aussi en réalité. Mais on est tellement, en fait, aujourd'hui passé à une espèce de naturalisation, hein, de cette mesure d'organisation urbaine. Mais non, oui, c'est rigolo de voir cette progression dans les discours justement sur la densité. Donc juste, peut-être très rapidement pour terminer, sur la valeur d'usage. Alors je ne sais plus. Donc, effectivement. effectivement, donc, sur la valeur d'usage, donc effectivement, c'est très important. Et au niveau local, il y a un enjeu justement à mettre en évidence le fait que la densification peut aussi améliorer la valeur d'usage des espaces urbains. Pourtant, quoi qu'on en fasse, qu'on le dise, au niveau local, il y a encore une peur très grande vis-à-vis des projets de densification. Donc quand on annonce qu'on va construire un immeuble, quand on va densifier, ça reste encore un problème aujourd'hui. Et en fait, rapidement, pour évacuer un peu ce problème, souvent dans le document politique, on ne parle pas forcément de densification, on parle d'intensification urbaine, donc ça passe un peu mieux. Et notamment dans le risque, on parle de compacité, d'intensification, et donc on ne parle pas forcément de densification, même si c'est bien densification qui est mise en place. Donc c'est une manière de mettre aussi en avant le fait que la valeur d'usage est bien prise en compte dans ces processus.